L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam IV, mon père. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. L'épice a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, car ils absorbent le gaz orange qui leur donne le pouvoir de replier l'espace. C'est-à-dire de se transporter n'importe où dans l'univers sans se déplacer. Ah oui, j'oubliais de vous dire, l'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Vous venez d'entendre les premières minutes de l'adaptation cinématographique de 85, signée David Lynch du roman Dune, écrit par Frank Herbert. Bonjour à tous, vous écoutez L'Épluche Livre et cette émission est placée sous le signe de la science-fiction.
Ce qui est pénible avec le H, c'est que ça s'entend pas du tout.
Bah si. Tu vois ?
En haut de sa hutte, s'est hissé Henri. En haut de sa hutte, s'est hissé Henri. Que la lune est haute, se dit notre ami. Que la lune est haute, Henri est Henri.
Notre invité aujourd'hui, en direct de la Lune, est une grande dame de la science-fiction. Autrice de nombreux romans et nouvelles, mais aussi réalisatrice et scénariste, Joëlle Vintrebert, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais très bien.
Ça va ? L'année commence bien.
Mais absolument, grâce à vous, c'est super.
C'est gentil, merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. L'extrait que nous avons diffusé pour l'introduction de cette émission, est-ce que vous le connaissiez ? Ça vous parle ? Vous avez vu ce film ?
Oui, oui, tout à fait. J'avais bien sûr vu le Dune de Lynch, comme j'ai vu plus récemment le Dune de Villeneuve. Et c'est assez intéressant de les comparer, d'ailleurs.
Oui. Et comme on ne verra pas... Pardon.
De quelle façon Lynch a eu vraiment les yeux plus gros que le ventre, alors que Villeneuve s'est vraiment donné le temps de déployer l'univers de Frank Herbert.
C'est une saga que vous aimez ?
Ah oui, 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 j'aime beaucoup, même si j'ai fini par jeter un peu le bébé avec l'eau du bain au bout d'un moment, parce qu'il y a énormément de livres, et je ne pense pas que tous les livres aient la même importance. Mmh. Voilà.
Oui, les trois premiers
les
sont
trois
quand
premiers,
même un cycle
oui, les trois
fini
premiers
quelque
sont
part.
Des chefs-d'œuvre absolus. Mm. Pardon, des chefs-d'œuvre absolus de la science-fiction mondiale.
Oui. En parlant de science-fiction, dites-moi, vous qui en êtes la spécialiste, qu'est-ce que c'est que la littérature de science-fiction ? Est-ce que vous pourriez nous donner une définition ?
Il n'y a rien de plus difficile que de définir un genre qui est aussi protéiforme. Voilà, parce que à l'intérieur de ce qu'on appelle la science-fiction, il y a énormément de sous-genres. Donc, la définition devient très difficile. Si vous prenez les romans qui sont plus de l'anticipation, ce qui est plutôt ce que j'ai écrit moi, donc on est en une projection avec une idée un petit peu de description sociologique de notre univers projeté dans le futur. Si vous prenez Space Opera, là effectivement vous allez avoir Dune, donc avec quelque chose de beaucoup plus projeté dans le futur justement. Si vous prenez l'heroic fantasy ou la fantasy, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup moins fondé sur le plan scientifique, qui est beaucoup plus une adaptation dont on pourrait dire que ça ressort beaucoup au conte. Mmh. Voilà, avec des fées, des dragons,
des êtres surnaturels.
Voilà, exactement. Donc, contrairement au fantastique, donc on est d'emblée dans un univers surnaturel avec la fantasy. Et alors que la science-fiction, c'est le pas de côté qui vous permet finalement d'interroger le futur et finalement aussi le monde dans lequel nous vivons. Moi, c'est la science-fiction qui m'intéresse le plus, c'est celle qui nous parle du monde dans lequel on vit.
C'est voilà. La science-fiction qui nous parle de nous.
Qui nous parle de nous, tout à fait.
Quel est votre parcours ? Parce que vous avez travaillé pour le cinéma, vous avez écrit, vous avez aussi marrainé certains concours d'écriture de nouvelles. Racontez-nous un petit peu quel est votre chemin d'écriture, votre chemin en tant qu'autrice ?
Alors en fait, par rapport à la science-fiction, c'est quand même mon premier roman était un roman de science-fiction. Et c'est ce qui m'a fait connaître d'une certaine façon. Très rapidement, parce que j'étais pratiquement la seule romancière française au moment où j'ai publié en France. La seule romancière de science-fiction.
En quelle année ?
1980. Mm-hmm. Donc j'avais publié quelques nouvelles avant, et surtout c'est ce qui m'a donné envie et ce qui m'a persuadée d'en écrire, parce que il y a toujours un peu vous connaissez le syndrome de l'imposteur.
Oui,
donc
oui.
J'ai une formation littéraire, je suis allée à la fac, j'ai fait des études de lettres et des études de cinéma. Et donc, je n'ai pas de formation scientifique. Même si je me suis toujours intéressée à la science, je suis abonnée par exemple à La Recherche, qui est la revue de science-fiction, de science-fiction de science, ne faisons pas le glissement, pas si vite, depuis son numéro 1. Et j'ai les numéros depuis numéro 1, donc je me suis toujours intéressée à la science, mais en fait... j'ai été initiée par une amie plus âgée qui avait une bibliothèque extraordinaire et qui m'a orientée directement j'avais 18 ans, sur les grands livres. Et donc moi je sortais du surréalisme, des poètes symbolistes, surtout surréalisme. Bon, j'avais lu Lovecraft, puis j'avais lu les grands anciens évidemment, mm-hmm. Wells, Verne,
Marie Shelley aussi,
Marie Shelley, ouais. Bien sûr. Et mes sorties de ça, je ne connaissais pas du tout la science-fiction dite moderne. Et donc, cette initiation a été absolument extraordinaire pour moi. Et j'avais une amie qui avait la rubrique cinéma dans une revue qui s'appelait Horizon du Fantastique. Mm-hmm. Et quand il a été question de prendre une rédaction en chef, parce que la rédactrice en chef s'en allait, donc elle m'a dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas la direction de cette revue ? Donc, bon, j'avais terminé la fac à ce moment-là, mais tout juste. Et c'était en 75. De ce fait, en prenant la rédaction en chef de cette revue, qui était une revue de fantastique, de science-fiction, de toutes les paralittératures. Donc, j'ai rencontré le microcosme.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai rencontré les fans, j'ai rencontré les éditeurs, j'ai rencontré les critiques, moi je critiquais moi-même, et donc tout le monde, sachant que j'avais commencé à écrire, puisque bon, je ne le cachais pas, me disait, mais pourquoi pas de la SF ? Et c'est comme ça que je me suis autorisée, avec une première nouvelle qui était quand même assez charnière, poésie et plus fantastique, réellement fondée sur un plan scientifique. Et puis, le désir venant d'en écrire, donc j'ai commencé à publier des nouvelles qui ont du succès. Et voilà, et tout le monde attendait mon premier roman en 1980.
Super. Voilà, super. Ouais. Donc, vous le disiez un petit peu, vous parliez de microcosme, vous parliez d'être la première autrice française de ce genre.
Je n'ai pas été la première autrice française de ce genre. Tout le monde avait, enfin toutes les femmes écrivains de science-fiction avaient disparu à l'époque.
Oui.
Voilà, au moment où j'ai publié mon premier roman.
Voilà. Excusez-moi, oui, je me suis mal exprimée.
Oui, non, ce serait un titre de gloire.
Je voulais juste poser la question, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça signifie d'être une autrice SF, surtout dans les années 80? Maintenant aussi, je suppose quand même, puisque vous le disiez, on parle d'un microcosme, hein, on parle de personnalités parfois un peu présentes dans cet univers-là. Quelle est votre expérience à ce propos-là?
Je comprends pas bien votre question.
Simplement d'être une femme en SF.
Ah,
pour faire simple.
Alors, en fait, finalement, j'ai l'expérience du journalisme. Hein, j'étais journaliste avant de me consacrer à l'écriture de fiction. Et tout ce que j'ai pu rencontrer en tant que journaliste, c'est-à-dire du sexisme, je ne l'ai absolument pas rencontré dans le milieu de la SF, curieusement, parce que ça paraît très contradictoire dans la mesure où c'était un milieu essentiellement masculin, et j'ai été très bien accueillie. Et je n'ai jamais senti, ou rarement, de poids par rapport au fait que j'étais une femme écrivant de la science-fiction.
Voilà. Ça, c'est super.
Au contraire, j'étais très très bien accueilli, puisqu'il y en avait si peu. Voilà, il y avait des nouvellistes, mais des romancières. Au moment où j'ai commencé vraiment à publier des romans, il n'y en avait pas. Voilà.
D'accord, c'est un témoignage, une expérience qui fait plaisir à entendre. Vraiment, fait de poser la question, c'était difficile. Mais...
Et alors, depuis qu'on peut dire que les filles sont un peu plus arrivées, mais ça a mis 30 ans, hein, arrivées sur le début, devant la scène de l'ASF, alors, elles sont moins, apparemment, il y aurait eu un peu un backlash, parce qu'elles sont, moins catégoriques que moi sur le fait qu'il n'y a pas de sexisme dans ce milieu.
Voilà. Oui, après vous parlez de votre expérience.
Et je ne parle évidemment que de mon expérience, et moi j'ai été très très bien accueillie.
C'est chouette, il faut le souligner.
Tout à fait.
Et donc, voilà, où je voulais en venir ensuite, les grandes dames de la SF. Vos inspirations, est-ce que vous avez lu, je suppose que oui, Ursula K. Le Guin, Catherine Dufour, Octavia Butler. Quelles sont vos inspirations dans la SF?
Alors, Catherine m'a largement succédé, hein,
oui.
Catherine Dufour.
Oui.
Donc, on ne peut pas dire qu'elle m'ait inspirée. Mais évidemment, Ursula K. Le Guin ou Le Guin.
Oui.
Voilà, on ne sait pas trop comment le prononcer.
Il faut prononcer le K, je sais que ça lui tient à cœur. Mais ensuite.
C'est surtout pour Philippe K. Dick qu'il ne faut pas oublier le K.
D'accord.
Mais Ursula Le Guin, elle a publié sous le nom de Ursula Le Guin. Il n'y avait pas forcément
au
Krober.
Au départ. Mais bon, je l'avais entendu comme quoi c'était apparemment l'initiale du nom de sa maman et que bon voilà, mais j'avais entendu ça ensuite.
Oui, c'est Krober de ses parents qui étaient anthropologue.
Ouais, d'accord. Et donc c'est elle vous a inspiré, elle fait partie de vos inspirations.
Oui, elle fait absolument partie de mes grandes sources d'inspiration, au premier chef. Et sinon, Octavia Butler, je l'ai découverte plus tard. Mmh. Voilà. Et on a la chance récemment que les éditions Au Diable au Vauvert éditent Octavia Butler, parce que sa série Xénogénésis n'était pas éditée en France, n'était pas éditée en français. D'accord. Donc il y a une trilogie qui est extraordinaire, donc qui vient d'être publiée par les éditions Au Diable au Vauvert. Je conseille vraiment à tous les lecteurs de lire cette autrice, qui était une autrice noire aux États-Unis, et on peut imaginer comment son parcours était beaucoup moins facile que le mien.
Très bien, merci beaucoup pour ce conseil. Nous en arrivons à la pause musicale et nous allons écouter le morceau que vous avez gentiment choisi pour nous.
lost without you, boy. Today I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
Écoutez les Pluches Livres. Aujourd'hui, nous sommes partis à la découverte des étoiles et des galaxies avec Joël Vintrebert. J'ai bien dit découverte et non conquête, comme on l'entend souvent, comme on le projette souvent. Car les textes de vous que j'ai lus, bon, je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu un petit peu quand même, s'attachent à offrir au regard et à l'imaginaire des biomes, des écosystèmes, des formes de vie qu'il est souvent vain de conquérir et de chercher à s'approprier. Et de ce constat, j'ai une question. Enfin, quels idéaux votre écriture était, de quels idéaux votre écriture est-elle vectrice? Pardon.
On va y arriver.
Eh bien, moi, ce qui m'a intéressé dans la science-fiction, c'est pour ça que j'ai commencé à en écrire et que je continue à en écrire, même si j'ai divergé un petit peu sur le roman historique à certains moments, ou de thriller, ou même le roman contemporain. Mais la science-fiction, c'est la littérature qui permet le pas de côté, et c'est une écriture pour moi de résistance. Et cette résistance, elle est de plus en plus essentielle dans le monde dans lequel on vit, on le voit bien. Et je pense qu'on a vraiment besoin avec... enfin, moi, personnellement, j'éprouve le besoin par cette littérature, de montrer quelles sont nos peurs, quelles sont et à la fois aussi éventuellement nos espoirs par rapport au monde tel qu'on le vit actuellement.
Donc, la science-fiction a une importance dans notre société, par là même.
Je pense que c'est la littérature d'aujourd'hui. Voilà, c'est la littérature qui permet d'interroger ce monde dans lequel on vit, dans la mesure où, effectivement, elle a cette dimension planétaire.
Est-ce que vous avez vu une évolution dans le lectorat, dans le monde de la science-fiction ces dernières années? Est-ce que c'est un genre qui s'est ouvert?
Alors, il y a une grosse évolution dans la mesure, d'une part, où les filles sont arrivées enfin. Ils ont commencé à publier et à en écrire. Il y a beaucoup plus de lectrices qu'il n'y en avait quand j'ai commencé à publier. Donc je pense que le lectorat, il est à peu près moitié-moitié, je pense. Beaucoup, beaucoup de filles lisent de la science-fiction aujourd'hui, de jeunes filles. Je pense que c'est très important, dans la mesure où, effectivement, le statut de la femme a quand même été beaucoup interrogé, et le féminisme aussi dans la science-fiction. Et puis, tout simplement, il n'y a pas seulement la publicité qui s'est emparée de la SF depuis longtemps maintenant, mais les éditeurs de mainstream, c'est-à-dire qui publient des auteurs qui ne sont pas des auteurs de cette littérature, se mettent à en publier hors collection. Ouais. Il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus, en effet. Oui, on peut voir de la science-fiction chez des éditeurs enfin, auxquels on ne s'attendait pas. Quels sont justement les éditeurs avec lesquels vous avez pu collaborer, vos éditeurs à vous, vos amitiés professionnelles, votre relation au monde éditorial?
J'ai publié beaucoup, donc j'ai eu beaucoup d'éditeurs différents. J'avais commencé surtout à me faire connaître en publiant chez J'ai lu, parce que en étant publié des inédits directement aux poches, c'était extraordinaire à l'époque où j'ai commencé à publier, dans les années 80, on tirait 30 000 exemplaires des livres et on les vendait. Donc livre qui s'est le mieux vendu, il s'est vendu quand même à 45-50 000 exemplaires en poche.
C'était un titre.
Et ça n'existe plus.
Voilà. D'accord.
Oui. Les éditeurs ont multiplié les titres. Ils ont complètement diminué les tirages. Donc aujourd'hui, disons depuis une quinzaine d'années au moins, les auteurs qui vivaient bien de leurs plumes ne peuvent plus en vivre ou n'arrivent plus à en vivre. En revanche, les éditeurs, pour eux, ça pose aucun problème. Le simple fait pour les gros éditeurs de faire transiter des livres dans toute la France ou à l'étranger leur suffit à gagner déjà des fortunes.
D'accord. Donc voilà. Là, il y a ces pratiques-là qui se sont instaurées.
Il y a un très gros problème à ce niveau-là. Oui. Oui.
Et donc, vous avez vécu de votre plume?
Alors moi, j'ai vécu de ma plume. Mais j'ai vécu de ma plume, effectivement, à une époque où il était beaucoup plus facile d'en vivre.
D'accord.
Oui.
Ok.
Oui. J'ai assuré mon statut d'auteur avec ce qu'on appelle l'AGESA, donc qui était la sécurité sociale des artistes auteurs. Et vous étiez obligé d'avoir un certain revenu en droit d'auteur tous les ans pour maintenir votre statut, votre droit à la sécurité sociale. Et puis, ce qui est arrivé ensuite, un peu tardivement d'ailleurs pour ma génération, la retraite complémentaire avec l'IRSEC. Et donc les auteurs aujourd'hui, pour atteindre cette somme en droit d'auteur nécessaire pour avoir ce statut professionnel, c'est beaucoup plus difficile pour eux.
D'accord. Oui. Et donc, ils ont quel type de statut? Vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là? Comment ont-ils contourné le problème?
On ne peut pas contourner, donc vous êtes obligé d'avoir un autre travail.
Voilà. C'est ça.
Vous ne pouvez pas vivre de votre plume.
Oui.
Ouais. Ouais. Ce qui est bien triste, parce que il n'y a que en se consacrant vraiment à son art, on le sait, hein, qu'on peut aller jusqu'au bout de ses idées, de son talent, voire de son génie pour certains.
Oui, ouais, tout à fait. Il y a de l'art empêché. La plupart des invités que nous avons eus en studio, là, j'ai posé la même question et très peu ont pu dire « oui, je vis de mon travail artistique ».
De mon travail artistique.
Ouais, c'est toujours un à côté.
Voilà, c'est extrêmement difficile. Donc moi, j'ai eu la chance d'en vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai arrêté le journalisme, et j'ai décidé de vivre de ma plume. Donc bon, j'ai eu parfois des travaux annexes comme faire du rewriting. J'ai rewrité Barbara Cartland, par exemple, pour les éditions que j'ai lues. Donc faire du rewriting et j'ai fait des traductions quand j'avais vraiment besoin d'assurer mon statut, parce que justement mes rentrées en droit d'auteur n'avaient pas été suffisantes.
D'accord. Quelle est votre actualité?
Alors, je n'aime pas trop parler de mon actualité, parce que j'ai signé un contrat avec un éditeur, mais pour le moment j'ai des attentes par rapport à cet éditeur et je ne suis pas sûre qu'il va... Il va aller jusqu'au bout de la démarche qu'il a commencée. Donc, je préfère ne pas en parler. Pourtant, c'était très amusant. Mais voilà, donc je vais... Il va y avoir des rééditions. Des rééditions d'un livre que j'ai beaucoup aimé écrire. Donc, il y a un livre des années 1980 qui s'appelle « Les Maîtres Feux ». Et qui republiera en poche au Diable Vauvert.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Et puis sinon, je suis aussi... vous savez ce que c'est, ce sont des novellas. Des novellas, donc ce sont des courts romans.
Oui.
Voilà, donc j'ai deux éditeurs qui me sollicitent d'une façon très intensive. Et donc je vais m'attaquer à ça.
Donc là, vous avez des commandes, en fait, d'éditeurs,
oui,
c'est
tout
ça?
Tout à fait. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des commandes d'éditeurs en tant qu'écrivain.
Oui, c'est important, ça a été...
C'est très important parce qu'on vous donne une certaine somme qui vous permet de commencer à travailler et d'assurer un petit peu vos arrières. Cette somme vous reste due quoi qu'il arrive. Mmh. Et ces signatures sur Synopsis, elles sont extrêmement importantes pour les auteurs parce qu'elles sont sécurisantes.
Mmh. Très bien. Je crois que donc Le Diable Vauvert, avec qui vous collaborez beaucoup actuellement, a commencé donc un travail de réédition de vos textes,
oui.
Et notamment a réédité Les Olympiades truquées.
Mm-hmm.
C'est un texte sur lequel vous avez pu retravailler assez récemment, je crois. On vous a demandé la suite. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce...
Oui, c'était très, très amusant parce que j'étais invitée au Festival international de romans noirs à Frontignan. Et Yves Jomain, qui est l'organisateur en chef du festival, qui avait adoré les Olympiades truquées quand il était sorti. Ça remonte quand même, hein. C'est mon premier roman en 1980. Donc, il parle de clonage et de dopage à une époque où on en parlait assez peu. Et il m'a demandé si il avait vraiment l'envie que j'écrive une suite à ce roman. Donc, 20 ans plus tard, quoi. Donc, je me suis lancée. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on a fait un atelier d'écriture avec des secondes de lycée professionnel de Frontignan, ouais. Le LEP. Et qui sont des jeunes, qui sont vraiment pas la lecture, c'est quand même la plupart du temps assez loin d'eux.
Mmh.
Et curieusement d'ailleurs, c'est pas bien vu, c'est-à-dire que j'en parlais avec la documentaliste, les jeunes qui viennent emprunter des livres à la bibliothèque de l'école le font en cachette. Et quand ils sont surpris par un autre des élèves avec un livre à la main, l'élève dit « Tu lis ?»
Mais non.
Mais si, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Donc j'ai réussi à faire écrire ces jeunes, et ce qui n'était pas si facile.
Sous le regard des autres, quoi. Voilà, sous le regard des
voilà,
copains.
Voilà, tout à fait. Ouais. Et ça a été extrêmement... D'une part, ça a été productif. Hein. On a obtenu des choses. Et puis ça a été, je pense, très enrichissant pour eux et très enrichissant pour moi.
Super, super, super. Donc c'est un petit texte que vous avez, qu'on pourra certainement retrouver, qui n'est pas publié en tant que texte libre.
Non, il a été publié à l'occasion du festival et distribué aux festivaliers et à tous ceux qui achetaient un livre chez les libraires. Donc ils avaient un exemplaire de ce texte en plus.
Très bien, qui est en édition limitée, un peu unique. Est-ce que vous avez, pour terminer cette émission, un conseil lecture à donner à nos éditeurs, ceux qui découvriraient la science-fiction, par quelle porte d'entrée ?
Alors, pour ceux qui découvriraient la science-fiction, je ne dirais pas le livre auquel je penserais spontanément, je le dirais peut-être quand même, parce que je pensais au Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson, mm-hmm. qui est un livre absolument extraordinaire, dans la mesure où il interroge le monde justement dans lequel on vit, en essayant de trouver... Il a vraiment... C'est quelque part une tentative utopique de montrer comment on pourrait organiser notre futur proche pour essayer de remédier à la dérive climatique à laquelle on assiste. Et pas seulement climatique, hein, tous les problèmes de société sont abordés par cet auteur. Mais c'est un livre qui est exigeant, qui mm-hmm. n'est pas facile du tout dans la mesure où il y a le côté fiction et puis un côté assez didactique de la part de Robinson, de montrer comment justement, quelles sont les dérives et comment on va dans le mur et comment éventuellement on pourrait y remédier. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment un livre passionnant pour ça. D'ailleurs, on lui avait donné le Grand Prix de l'imaginaire.
Oui. Il est à la librairie, l'année dernière. Disponible au format poche.
Mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la science-fiction, alors je dirais le classique entre tous les classiques, c'est les Chroniques martiennes de Bradbury. Parce que bon, là vraiment, poésie, c'est un livre absolument superbe. Et puis, la série de Terre-Mère de Le Guin, qui est abordable et qui est magnifique.
Ouais. C'est très bien. Merci beaucoup, Joël. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et comme le dit un célèbre astronaute, vers l'infini et au-delà.
Les plus livres.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette ?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre.